va prendre, on va lire le chapitre 12 de l'Apocalypse, cette vision justement de la femme et du dragon. Je prends un petit peu plus haut pour donner le contexte toujours. On est à la septième ange qui sonne de la trompette. Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment cette apparition du royaume de Dieu. Hein, c'est l'hymne qu'il y a dans les vêpres du jeudi. Le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur et à son Christ. Il règnera pour les siècles des siècles, et tout le monde dit Amen. Dieu qui est, qui était, tu exerces ta puissance, tu as établi ton règne. C'est l'accomplissement des paroles de Jésus. Et voilà ce qu'on dit à la fin du chapitre. Donc, les temps du jugement pour les morts, les serviteurs, les prophètes, les saints qui craignent ton nom, voilà. Et le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit. Donc le temple, c'est l'habitation de Dieu. Donc c'est l'intime de Dieu qui s'ouvre. Et l'arche de l'Alliance apparut dans le temple. Donc derrière, il y a le temple de Jérusalem. Le temple, quand on parle du temple, quand on pense, comme chez les anciens, nous, on se balade dans la cour. Mais le saint, c'est que les prêtres, et le saint des saints, il n'y a que Dieu. Et donc le rideau du temple qu'on ne pouvait pas passer, qui s'est déchiré à la croix, eh bien, il s'ouvre. Donc voilà, c'est l'apparition de Dieu lui-même. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu du saint des saints? Il y a l'arche d'alliance. L'Arche d'Alliance, c'était une boîte dorée avec les chérubins dessus, avec dedans les tables de la loi, la verge d'Aaron, et puis un peu de manne, etc. Et les signes de cette présence de Dieu. Et l'Arche d'Alliance, c'est aussi, du coup, dans les litanies, c'est Marie, l'Arche d'Alliance, bien sûr, qui est montrée, qui est au cœur, qui porte, parce que l'Arche, c'est du couvercle de l'arche où il y a deux chérubins dessinés que Dieu parle. La parole de Dieu, elle se donne, c'est là que c'était symbolisé, si vous voulez. Donc c'est vraiment, voilà, le temple s'ouvre et on va entendre vraiment la parole de Dieu, le dessein de Dieu sur le monde. Et d'ailleurs, on le voit, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle, qui sont tous les signes dans l'Ancien Testament, on reprend les images ici, de Dieu qui se manifeste. Et quand il se manifeste avec puissance. Voilà. Donc, on est ouvert, et qu'est-ce qu'on va voir? Un signe, un grand signe apparu dans le ciel. Et c'est intéressant parce qu'on dit un grand signe. C'est des signes qui arrivent, mais là, un grand signe. Une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. C'est intéressant. Il va y avoir, ça va être vraiment le règne de Dieu, le règne de Dieu confié à notre terre, si vous voulez. C'est ce qu'on a entendu, qui se révèle pleinement. Et d'abord, c'est pas d'abord le dragon qu'on voit, c'est d'abord la femme. Elle précède le dragon. Intéressant dans la vie spirituelle à noter, la grâce précède toujours. Marie précède toujours. C'est une chose qu'il faut se rappeler. Quand nous, on est dans le combat, et dans le combat surtout, où on oublie Dieu et on ne voit pas Dieu, il faut toujours se souvenir, la grâce précède. Donc la figure de la femme précède celle du dragon. Et on a un grand signe, il faut entendre le sens de signe au sens de Saint Jean, puisque l'Apocalypse de Saint Jean. C'est-à-dire... c'est à la fois un miracle, Hein, et à la fois, ça, c'est du sens. Vous savez, dans l'évangile de Jean, il y a aussi des cycles de sept. Hein, il y a sept signes dans l'évangile de Jean, dont le premier est Cana. Et c'est des signes, on appelle ça des signes et non pas des miracles. Et c'est à la fois des actes de puissance de Dieu, mais en même temps qui vont donner le sens. Hein, les noces de Cana, ça va donner le sens de l'accomplissement justement eschatologique. Dieu, le grand texte de l'Ancien Testament, Dieu qui vient épouser l'humanité. Hein, voilà. Alors, donc la femme ici va expliciter cette alliance, hein, ce lieu de l'alliance et le lieu où va parler la parole de Dieu. Elle a le soleil pour manteau. Bon, le soleil, ici, c'est la puissance hein, illuminatrice de Dieu. C'est le ciel, hein, c'est le spirituel qui la revêt, qui est son manteau. Et la lune sous les pieds. C'est à la fois, si vous voulez, c'est à la fois. C'est intéressant, je reprends le soleil. Si vous faites le lien avec le début de l'épître aux Éphésiens, hein, le début de l'épître aux Éphésiens, Dieu a parlé jadis à nos pères de manière fragmentaire et variée. Et en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé de manière complète en donnant son Fils, lui, l'effigie de sa substance. Hein. C'est vraiment le rayonnement de sa gloire, c'est la splendeur, c'est vraiment le soleil. Hein, Dieu qui se donne tout entier. Et en même temps, ici, vous avez la lune, parce que c'est cette lumière qui est donnée sur la terre, qui est reflétée. Hein, la lune, on la voit sur la terre, et c'est le reflet de la lumière de Dieu. Hein. Donc c'est cette lumière qui nous est donnée aussi dans le temps, dans notre condition de devenir, dans notre condition de changement. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile aussi à comprendre, puisqu'on est de plus en plus dans l'immédiateté, il faut que tout arrive tout de suite. Hein, et non, c'est dans ce changement qui vient petit à petit. Cette femme, c'est la beauté spirituelle qui engendre la foi. Hein, et toujours, toujours, vous voyez, on va avoir, c'est à la fois Marie, c'est à la fois l'Église. Hein, c'est à la fois l'Église dans son ensemble, c'est aussi chacun de nous appelé. Elle est habillée, c'est-à-dire que son âme est illuminée des vérités éternelles, du dessein de Dieu. Son esprit et son corps sont parfaitement finalisés par Dieu. Si c'est cette verticalité de la foi, hein, telle que Dieu le désire pour le croyant. Vraiment vers cet accomplissement. La lune, on pourrait y voir aussi. Parce que bon, chaque peut ouvrir les sens. Hein. La lune, c'est aussi tout ce rayonnement de la trace de Dieu, mais jusque dans la sensibilité humaine. Hein. Et justement, la lune, c'est le grand signe, si vous voulez, de notre humanité. Par exemple, dans le judaïsme, on dit qu'on compte les années, hein, des années lunaires, hein, à travers les mois. Parce que le soleil, les années, alors ils disent les païens, ils sont avec les années de soleil, mais le soleil, il n'y a pas de changement, c'est toujours, il se lève toujours d'un côté, il se couche toujours de l'autre. Hein. Tandis que la lune, c'est comme le peuple d'Israël, c'est comme notre humanité, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que de temps en temps, c'est en pleine lumière, avec la pleine lumière de Dieu, puis ça diminue, puis jusqu'à un moment sur disparaître, et puis ça reprend, etc. C'est vraiment notre vie dans le changement. Puis c'est jamais au même endroit dans le ciel, ça change tout le temps. Hein. Eh bien, c'est intéressant parce qu'avec Marie, ça va être justement ce combat, cette entrée pour recevoir la pleine puissance de Dieu, mais à travers et l'intégrer petit à petit. Vous voyez ce que j'appelais la transfiguration tout à l'heure, hein, que nous apprenions à nous laisser transformer petit à petit, hein, et à travers ces chemins, le chemin de la foi, qui a des fois des grands moments de lumière, des fois des grands moments d'obscurité, des fois des moments de demi-teinte, à travers tout notre chemin. La femme, elle domine sous ses pieds les 12 étoiles. Hein, la lune, c'est-à-dire tous nos états d'âme. Hein, et par rapport à tous nos états d'âme, tous nos changements, il y a cette réponse de foi qui va se faire verticale, forte, issue du cœur de Dieu, embrasée de l'amour divin. Voyez, et ça, c'est quelque chose. Notre foi, c'est un rempart. Faites toujours attention. Dans nos chemins, dans les griefs qu'on peut avoir, soit contre soi-même, soit contre les autres, etc., on peut laisser la bride sur le cou au grief. Et on oublie ce qui sous-tend. On oublie ce qui sous-tend. Parce que il y a... Dans un couple, c'est important, hein, ou dans une vocation, c'est important. Bien sûr qu'il y a telle chose qui ne va pas, telle chose qui mène à notre état, mais on peut le laisser grandir. Mais au fond, et il faut laisser, au fond, il y a cette alliance qui est faite. Au fond, il y a ce oui. Au fond, il y a ce chemin. Au fond, il y a cet amour et qu'il faut garder. Même s'il y a des choses difficiles, même s'il y a des choses, mais de l'attitude de foi, elle est fondamentale, voyez, parce que si on se remet, alors bien sûr qu'il y a des choses difficiles, bien sûr il y a des choses qu'il faut discuter, bien sûr il y a des choses qu'il faudra dépasser et sur lesquelles on bute peut-être pendant longtemps, mais toujours revenir à cet amour fondamental, à ce qui a été donné et ce qui est appelé à s'approfondir. Et même, j'allais dire, c'est un grand bienfait quand on peut dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, je suis énervé et tout, mais au fond, il y a cet amour qui est plus fort, hein, et de le garder. Et ici, vous avez un peu cette image. Alors, bon, on a utilisé cette image, bien sûr, surtout à partir du 14e siècle, dans l'iconographie, hein, de Marie couronnée d'étoiles, pour la lune sous ses pieds, le soleil comme manteau, comme image de l'Immaculée Conception. Et ici, c'était cette Marie aussi qui domine. Ça reprend un peu un verset du Cantique des Cantiques qui traduit « Elle est terrible comme une armée en bataille ». C'est une des traductions du verset 10 du chapitre 10. C'est cette force que donne Marie, vous voyez, c'est cette force que donne la foi au milieu de tous nos changements. La lune, c'est aussi un appel, si vous voulez, pour notre intelligence humaine qui s'applique à découvrir la révélation de Dieu. Ou encore, c'est le cœur, hein, qui est l'organe de la connaissance de Dieu. Et le cœur, elle est sous les pieds parce que le cœur est appelé à dominer cette connaissance. Sur les 12 étoiles, on pense tout de suite aux 12 apôtres, hein, les 12 apôtres qui s'originent aussi dans les 12 fils de Joseph, de Jacob, pardon, dans Joseph. Et 12, ça va toujours être ce signe justement de l'alliance avec les 12 tribus d'Israël. Et c'est intéressant parce que ce qui rayonne et ce qui donne, si vous voulez, cette gloire, ça va être la foi des apôtres. Hein. Cette vision de la femme, elle est intéressante parce qu'elle reprend elle va reprendre aussi ce fait que l'homme n'a pas été créé dans la puissance, mais il a été créé dans la grâce. La puissance, c'est assez intéressant, parce que dans la création, il y a beaucoup de puissance qui se déploie à la parole de Dieu, et de même, il y a cette douceur, cette grâce. Alors, elle est enceinte et dans les douleurs de l'enfantement. Alors, quand quand on applique, vous allez dire, oui, mais alors Marie, les douleurs de l'enfantement, est-ce que les douleurs d'enfantement, puisque la douleur d'enfantement dans la virginité, etc. Bon, alors, c'est des images qu'il ne faut pas fermer. Alors, on peut, les pères, on dit, ben, on s'arrange, si Marie n'a pas souffert à Noël, mais c'est la douleur de l'enfantement aussi de la croix. Hein, donc, voilà. Ce qui est intéressant d'entendre ici, c'est la foi, c'est une promesse de vie. Et c'est la vie qui est portée, la vie en plénitude, la vie éternelle qui est portée en plénitude. Moi, j'aime bien vous dire vie éternelle, parce que quand on pense à vie éternelle, on pense à demain. Hein? Alors que la vie éternelle, ça veut dire la vie qui dure, la vie qui est en plénitude. Mais c'est le combat spirituel et qui a une fécondité qui se fait par la croix. Ça, ça va être le message de Jésus. C'est par la croix. C'est par, dans notre condition humaine, c'est par la croix. Vous aviez Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 21. En vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira, vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction, puisque son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son accablement, et elle est toute à la joie d'avoir mis au monde un homme. Cet enfantement, et cet enfantement à la vie éternelle, et ça c'est quelque chose qu'on a peut-être le plus de mal à comprendre aujourd'hui. Hein? De comprendre cette nécessité de la croix pour notre cette nécessité de mais qui est un fait hein. Et Jésus le dit, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive hein, qu'il prenne sa croix d'abord, c'est-à-dire qu'il ose affronter les difficultés hein, qu'il ose affronter les difficultés, prendre le problème à bras-le-corps. Alors un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue qui balayait le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Après ce grand signe, il y a un grand dragon. Vous voyez, c'est plus le signe qui est grand, c'est le dragon qui est grand. Il est grand pour lui-même. Et il est rouge feu. C'était comme le deuxième sceau du cavalier. Un symbole du déchaînement de la violence sociale. De la colère. De la révolte du diable, de l'enfer, etc. C'est dans les textes déjà précédents. Et c'est un... C'est un monstre. Hein? Vous voyez bien, il a 7 têtes et 10 cornes. Ça va mal. Hein? C'est pas très facile à porter. 7 têtes et 10 cornes, avec 7 têtes, c'est 7 diadèmes. Hein? C'est un monstre et les forces du mal dans la Bible sont toujours montrées par différents, vous irez voir, hein, les différents monstres, le Léviathan, Rahab, Béhémoth, hein, qui sont des animaux un peu fantastiques, qui sont tous un peu des monstres marins d'ailleurs. Et c'est intéressant de voir, parce que c'est un monstre, un monde difforme, c'est celui qui a perdu ses contours, hein, qui a perdu sa forme originelle. Hein, c'est l'archétype... De la transformation, mais pas de la transfiguration dans la lumière, mais de réaliser par le mal. Hein? Si vous voulez, c'est le dragon, c'est l'image de la créature qui est devenue sa propre fin. Les 7 têtes et les 10 cornes, hein, la tête c'est l'intelligence, les cornes c'est la puissance. Hein? Dans la Bible, la corne, la puissance, ça se dit la corne. Puissance de salut, on a dans le Benedictus, enfin c'est vous preniez le terme, c'est la corne de salut. Hein, voilà. Il y a cette disproportion entre l'intelligence et la puissance. Le diadème, c'est l'intelligence du dragon qui est totalement dominée par son rêve de domination. Vous voyez, qui n'a comme fin que soi-même, son bien, son intérêt. Vous voyez. Et derrière, c'est les deux grandes choses dans lesquelles on se bat. C'est les deux grandes choses que nous explique la Bible et que nous explique toute l'histoire, hein, et tous les malheurs et toutes les difficultés à aimer. C'est ce qu'on voit comme la loi que Adam a suscité, hein, la loi de l'humanité, dans cette rupture avec Dieu. C'est la domination, le rapport de force. Hein. Moi, je suis toujours frappé. C'est dans Sartre, hein, dans ses pièces, il montre comment, finalement, l'amour n'est autre qu'une autre, une autre manière de faire la guerre. C'est toujours l'un qui domine l'autre. Hein. Vision de Sartre qui porte notre monde, mais notre monde moderne, mais bon. Ou le pour soi-même, hein, pour mon intérêt, hein, la concupiscence. Alors voilà. Bon, je vais avancer, on ne va pas rentrer dans les détails. La chute des étoiles, hein, c'est la lumière, la finalité des étoiles qui tombe. On perd la finalité et la queue, ça pourrait dire le mensonge. Bon. Mais voilà, qu'est-ce qui va arriver ensuite? 5 et 6. Elle mit au monde un enfant, un fils, un enfant mâle, celui qui doit mener paître toujours les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Bon, l'enfant après. Vous voyez, l'enfant qui doit conduire les nations, hein, c'est les prophéties déjà sur le Messie qui sont reprises dans l'Annonciation. Hein. Un sceptre de fer, ça voulait dire à l'époque un pouvoir fort que rien ne peut briser. Et il est pris auprès de Dieu, il est enlevé auprès de Dieu. Hein, ça fait penser au texte de Saint Jean. Hein, le Verbe de Dieu était, au commencement était le Verbe de Dieu et il était tourné vers Dieu. Hein, auprès de Dieu, on traduit. Et c'est à la fois, vous voyez, ce Fils de l'homme qui est au milieu de l'Église. C'est l'agneau qui est au centre de la cour céleste. C'est l'enfant au sceptre de fer. Hein, c'est à la fois ce... Qui appelle les élus. C'est à la fois ce mystère de cette présence, hein, au milieu, sur la terre, dans l'incarnation, dans les fidèles, et puis au ciel, dans l'accomplissement à la fin des temps. On a toujours cette dimension, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, le désert, elle s'en va au désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Aller au désert, elle s'enfuit au désert, c'est le lieu où Dieu lui a préparé une place. C'est intéressant parce que Dieu lui a préparé une place. C'est le désert, c'est le lieu de la contemplation, c'est le lieu de la prière, c'est le lieu où Dieu parle. En hébreu, le mot désert, c'est midbar. C'est un mot qui est fait à partir du verbe parler, davar, midbar, davar, midbar, c'est le même, c'est le M au début, c'est juste pour faire le mot. Mais le désert, c'est là où on entend, où Dieu se met à parler. Et elle y est cachée. La Vierge ici, comme la Vierge à Nazareth, hein, elle est cachée au désert. Et Dieu lui a préparé une place. C'est intéressant cette notion de désert. Hein, c'est toujours le désert, c'est ce lieu de la prière, c'est ce lieu de revenir à l'essentiel. Pour vivre au désert, et il ne faut pas emmener toutes ces valises. Il ne faut pas emmener, il faut aller juste avec l'essentiel, les choses essentielles qui sont données. Puis vous avez ensuite ce combat entre le ciel. Il y a eu un grand combat dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon, etc. Et je poursuis juste pour ce qui nous intéresse, pour la suite de ce qui advient à ce grand signe de la femme. Je saute un peu le combat de Michaël et de l'ange et du dragon. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui fait réservé pour y être nourrie, loin du serpent, un temps des temps et la moitié des temps. Alors le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter dans les flots, mais la terre vint au secours de la femme. La terre s'ouvrit et engloutit de fleuves vomis par le dragon. C'est intéressant parce que ici, il est montré à la fois applicable à Marie, à la fois applicable au peuple de Dieu, cette protection de Dieu pour Marie, pour son peuple. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Qu'est-ce que c'est que ces deux ailes? C'est d'abord le symbole de l'élévation. Si on prend le quatrième sceau, c'est la sagesse et la contemplation. C'est à la fois, si on prend Jean-Paul II dans Veritatis et Splendor, c'est Splendor et Veritatis, la splendeur de la vérité, c'est la foi et la raison. C'est cette connaissance plénière de la vérité. Et elle est conduite loin du serpent, loin de cette séduction du serpent tel qu'il a été porté. Enfin, on en a parlé tout à l'heure avec la séduction du serpent tel qu'il a séduit Ève et Adam, bien sûr, ensemble. Et une autre chose, c'est que elle y est nourrie. Et même si ça se déchaîne avec ce courant d'eau qui veut l'emporter, la terre vient au secours de la femme. Et la terre, ici, on peut voir, c'est vraiment cette humilité, cette simplicité dont parlait Saint-Jacques. Et ça va être la marque de Marie, ça va être la marque aussi. Il relève les humbles, c'est quelque chose qui va revenir constamment dans l'Évangile, c'est quelque chose, les doux, les humbles, les pauvres, les persécutés, etc. Ça va être le mystère. Le mystère qui va nous ouvrir. Qu'est-ce qui va nous ouvrir? Est-ce que c'est au mystère de Dieu? Est-ce que c'est la grandeur? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est la puissance? Est-ce que c'est la perfection? Est-ce que c'est... Non, ça va toujours être à travers ce mystère de la pauvreté, de la simplicité, de l'humilité. On verra l'humilité, on en parlera avec les paroles de Marie, d'une manière abondante. Mais voilà un petit peu, je vais la reprendre avec vous donc ce matin. Vous voyez, cette figure de Marie qui nous est présentée, à laquelle nous ne sommes pas indifférents. Je ne parle pas du point de vue affectif, je parle du point de vue de la vie de la grâce. Nous sommes inscrits dans cette grâce faite à Marie, ou du moins la grâce faite à Marie, c'est la grâce qui nous est faite, mais qu'on peut contempler en plénitude. Et on va jouer constamment là-dessus. Donc, passez un temps de retraite avec Marie, rentrez dans ces paroles de Marie, dans les réactions, dans la manière dont elle va vivre les manières de Jésus et dont elle s'y exprime, va nous donner les mots, va nous donner les attitudes spirituelles, va nous donner les clés pour que nous puissions vivre pleinement de la vie promise par Dieu, de la vie en plénitude, de la vie éternelle, ici commencer, dans notre condition, mais de manière vraie et plénière.